Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
YouTube, c'est dur, c'est compétitif, il faut faire l'effort de plus que d'autres ne vont pas vouloir faire, peu importe si j'atteins l'objectif ou pas. Ce que je veux, c'est qu'une fois que j'y suis, je puisse pas me dire « je l'ai pas atteint parce que j'ai rien branlé la moitié du temps ». Et ça me dérange pas d'être seul physiquement, j'adore être tout seul, honnêtement. Mais là, entre...
Non, tu peux rester,
je t'aime bien, j'aime bien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le moment de prendre des risques, en fait. Parce que j'ai toute ma vie, j'étais dans le courant, j'ai l'impression. J'ai envie de pouvoir tout plaquer, partir dans une cave, essayer de composer de la musique pendant 2 ans, parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et je me dis, ok, je me laisse 2 ans, tout seul dans une cave, à composer quelque chose et essayer que ça marche, sans avoir à me préoccuper de comment je vais payer les factures, comment je vais manger, qu'est-ce qui va se passer.
Ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast, Eric.
Bah, merci beaucoup pour l'invitation.
Comme tu le disais, t'as pas l'habitude de te faire toi-même interviewer. T'as plutôt l'habitude d'avoir des discussions avec des gens.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on t'a rarement fait une vidéo où on te présente un petit peu ton parcours, on te pose des questions sur ton activité. Donc,
c'est vrai.
Donc merci pour la quasi-exclusivité. Je crois que...
Il n'y a rien d'extraordinaire.
Ah si, il y a des choses intéressantes. Et je suis sûr que... Je suis sûr, ouais, qu'on va pouvoir discuter de choses qu'on a en commun, parce qu'on a beaucoup de points en commun.
Ça, je suis d'accord.
En dehors de la couleur des cheveux et
Ah mais oui, t'es blanc aussi, mais putain, oui. Je me disais, mais il y a mais quelque oui. chose que j'aime bien chez ce mec, je sais pas ce que c'est.
Non, vraiment, on a beaucoup de points en commun. Et un des plus grands points en commun qu'on a, c'est justement le fait d'avoir fait 5 ans d'études pour se lancer finalement sur YouTube.
C'est quand... Toi aussi, t'as fait la même c'est erreur. C'est erreur de parcours, ça arrive. Écoute.
C'est quand même pas commun. C'est vraiment pas commun. Et justement, on va essayer de répondre dans ce podcast. On va essayer de répondre à la question est-ce qu'on est des gros bouffons ou est-ce qu'on est des génies, quoi.
Ou un petit peu entre deux, peut-être.
Je pense. On va voir si on a été plutôt visionnaire ou si c'était une erreur.
On verra dans les années à venir aussi, peut-être. Ouais.
Oui, mais en tout cas, c'est intéressant. T'as quand même un peu de recul parce que ça fait quand même.
Ça fait 4 ans maintenant.
Voilà.
Ouais. 4 ans.
Moi, je me souviens encore très bien de la fin de mes études parce que c'était il y a 6-7 mois. Mais ouais. Toi, du coup, ça fait maintenant 4 ans que tu es à plein temps sur YouTube.
C'est ça, 4 ans pour ma première vidéo. Donc, c'était novembre 2017, donc un peu plus que 4 ans maintenant. Et c'était 2 mois après avoir reçu mon diplôme que j'ai sorti ma première vidéo. Ouais.
C'est ça. Très bonne vidéo d'ailleurs. J'en profite pour...
La toute première ?
Non, la vidéo sur ton diplôme.
Ah, la vidéo sur mon diplôme.
Elle est venue après celle-ci.
Elle est venue longtemps.
Ok, c'est ça. Mais donc,
après,
oui, pour ceux après. Qui... J'aime bien aussi raconter dans les podcasts comment est-ce que j'ai découvert le créateur que je rencontre. Il me semble que c'était avec... Ah oui, je sais. C'est une vidéo sur faire ses courses, faire bien ses courses ouais, au supermarché.
Elle a bien marché, celle-là,
ouais.
C'est vrai.
Ouais. Et bah, elle a paru sur mon YouTube. J'ai dit ok, j'ai pas regardé tout de suite parce que j'avais déjà fait mes courses et
plus tard.
Mais parce que en effet, je m'étais formé sur la nutrition et ça m'étonne pas que la vidéo soit arrivée sur mon feed. Mais donc toi, sur YouTube, tu parles un petit peu de tout, tu parles de sport, tu parles un petit peu de. T'as commencé avec un peu de vidéos, je dirais développement personnel dans la forme où tu essaies de donner des conseils et de parler directement à la personne. Tu parles un petit peu de. T'as même parlé un petit peu de loi d'attraction.
Mm-hmm. Et ouais, c'est vrai. Ma 5e vidéo, c'était du dev perso, effectivement.
C'est ça. Bah, je me reconnais parce que moi, j'ai fait des vidéos aussi au début sur prendre confiance en soi, des thèmes qui, comme ça, qui peuvent faire penser au développement personnel. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que... je ne sais pas comment tu te définis d'ailleurs, mais je pense que les gens, quand ils pensent à toi, ils pensent au street workout.
Surtout,
ça revient souvent.
Surtout.
Training à la maison.
Oui, c'est beaucoup... ouais, c'est... Bah, pour moi, je suis beaucoup plus associé au sport, clairement, parce que c'était aussi dans l'idée... Mais c'est vrai que dès ma toute première vidéo, la toute première de ma chaîne, je dis, sur cette chaîne, je veux faire des vidéos de sport et de développement personnel. Donc, j'avais déjà cette idée de vouloir faire les deux. Après, je me suis aussi rendu compte que le sport, ça vendait mieux. Et en plus, j'avais une approche peut-être un peu moins courante, parce que c'était plus axé street workout, poids du corps. Et donc, c'est surtout pour ça aujourd'hui qu'à ça qu'on associe mon nom. Et pendant le confinement, il y a eu un gros projecteur aussi sur les vidéos à la maison que j'ai fait. Et donc, ça a aussi popularisé mon contenu, mais surtout mon contenu sportif. Et moi, depuis le début, j'avais tout autant envie de faire l'un que l'autre. Et je n'ai pas envie d'être uniquement associé à l'un ou à l'autre.
Oui, c'est ça, c'est un équilibre. Le sport, tu le dis souvent sur ton podcast d'ailleurs, c'est le sport, le mental et le sport, s'améliorer physiquement et mentalement. Mmh. Ça revient quand même souvent et... bah moi je suis j'aime beaucoup cette vision des choses. Mais c'est vrai que tu as fait pour revenir sur tes premières vidéos, j'aimais bien le fait que tu imagais les principes. Je me souviens d'une vidéo où tu as monté une tour.
Ouais.
Juste pour expliquer le fait que lorsque tu montes et que tu essaies de monter, tu vas avoir des obstacles pendant ton ascension, et tu avais quand même cherché une tour pour illustrer ça. Je trouve que franchement, je me suis dit,
elle est pas si loin d'ici cette tour, ouais. Elle est à 20-25 minutes d'ici, ouais. Ouais.
Je me suis dit, c'est mieux que d'en parler tout seul dans sa chambre, quoi. Il cherche à imager les principes.
Ouais, je sais pas à quel point je cherchais à imager, oui, parce qu'en fait j'ai eu cette image de tu montes la tour, etc. Et ensuite, je construis sur cette image dans la vidéo parce que à partir du moment où j'étais lancé, c'était le but. Mais je me souviens que dans mes premières vidéos, mon but, c'était YouTube, c'est dur, c'est compétitif. Il faut faire l'effort de plus que d'autres ne vont pas vouloir faire. C'est comme ça, peut-être, que je peux me différencier dans ce monde où tout le monde parle déjà soi-disant saturé de muscu, de choses comme ça. Je me suis dit, bah, OK, si j'ai une idée de concept, je vais essayer de la pousser encore plus ou d'approfondir plus, trouver un moyen d'être différent dans le bon sens du terme, en tout cas.
Je connais bien ce sentiment, je l'ai connu il y a 2 ans, ce sentiment de dire j'arrive sur une plateforme qui est saturée, il y a plein de gens qui sont déjà installés. Et c'est marrant parce que est-ce que tu t'es posé cette question quand tu as commencé à faire tes vidéos? Tu te dis ça va être dur de me faire une place?
Je sais. En fait, j'étais confiant que j'ai...
Oh, tu peux le dire, hein.
J'étais confiant que ça allait fonctionner. En toi, hein. En vrai, j'étais confiant. J'ai même des vidéos de moi avant que je commence où je me filme et je dis que je sais que ça va marcher, en fait. Parce que je pensais sincèrement que ça allait marcher, en fait. Et j'aime penser que le fait d'en être convaincu, ça m'a aidé, en fait, à me dire, mais en fait, si ça part pas tout de suite, c'est juste que ça va arriver après. Et alors, il n'y avait pas que ça. Je suis très contre l'idée de « il suffit d'y croire et ça va venir tout seul en restant dans son canapé ». Ça, ça ne marche pas non plus, malheureusement. Mais je savais que c'était saturé, soi-disant saturé. Mais pour moi, je réalisais qu'en fait, c'est saturé autant que tu le penses, déjà. Et tout le monde est différent. Même aujourd'hui, tout le monde dit « c'est saturé, je ne sais quoi ». Mais tu débarques avec ta propre personnalité, tu es déjà unique dans ton contenu. Après, c'est évidemment à toi d'essayer de faire des choix plus ou moins intelligents pour avoir une proposition de valeur qui soit encore plus unique que éventuellement d'autres. Mais si tu laisses, injectes de toi-même dans ce que tu fais, personne ne pourra te remplacer.
Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est dur au début de montrer sa personnalité. Ouais. Et moi, je pense que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, 2 ans et demi, et je pense que ça fait à peine 6 mois peut-être que les personnes qui suivent mes vidéos voient la vraie personnalité que je peux avoir dans la vraie vie.
Ouais, moi c'est la même chose. Mais okay. Même ah oui, clairement, au tout début j'avais vraiment peut-être pas un masque, mais je me cachais derrière un personnage, Eric Flagg soi-disant, qui accentue sa personnalité, qui est un petit peu plus bruyant que normalement, qui parle plus fort, qui exagère un petit peu tout. Bah, je me suis dit, il faut tout amplifier pour que ça soit pas trop lisse et pas trop chiant. Donc, je me cachais un peu là derrière, et c'est vrai que de plus en plus, je me suis fusionné avec mon personnage, on dira. Je suis devenu ce que je représentais, et ce que je représentais s'est fondu avec ce que je suis, on dira. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être de plus en plus naturel, mais c'est vraiment un process constant, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, si je regarde une vidéo d'il y a 1 an, bah, j'aime pas trop, en fait. Je me dis, ah, je suis un peu, coincé, ça se voit que je lis mon script, entre guillemets, etc. Et à cette époque-là, j'étais content de ce que je sortais. Et si je regardais une vidéo d'il y a 1 an, j'étais là, ah, c'est pas ouf. Du coup, là, je suis content de mes vidéos aujourd'hui, mais force est de reconnaître que dans 1 an, ça se trouve, je les aimerais. Je ne m'aimerais pas dedans. Mais j'aime penser que je converge vers un truc qui est...
C'est ça. Bah, y a une phrase qui dit que si t'es pas embarrassé par la version de toi-même d'il y a 1 an, c'est que tu progresses pas assez. Un petit peu cliché, mais c'est peut-être un petit peu...
Dans ce monde de l'audiovisuel où tu te filmes toi-même et tu documentes des choses qui restent longtemps, ça me semble très, très possible et vrai.
Mais tu fais bien de préciser qu'en effet, au début, c'était un personnage, Eric Flagg. D'ailleurs, c'est un pseudo, hein, Eric Flagg, on le précise.
C'est pas mon
vrai. Dans la vraie vie, tu t'appelles Eric Drapeau.
C'est ça. J'essaie de le traduire parce qu'en anglais, c'est plus stylé.
Eric Drapeau. Ce serait marrant, Eric Drapeau.
Ouais, ce serait pratique.
Tu m'as demandé quand on avait fait notre interview si moi je m'appelais Dossier dans la vraie vie.
Ah, mais ce mec s'appelle quand même Dossier. Moi, j'étais sûr que c'était un pseudo. J'étais sûr.
Bah, des personnes en France le pensent actuellement
très certainement.
Encore.
Ouais. Ouais.
Et on pose la question en effet, mais non, c'est vraiment...
Tu vois, quand tu parles de vocation, bah, regarde le mec, il s'appelle Dossier, il fait des vidéos sur les étudiants.
Sur les études.
Forcément, c'est un pseudo. Et non.
Non.
Bah bravo. Bravo.
Bravo. C'est surtout que je trouvais pas de pseudo en fait. Ouais. Vraiment, j'aurais pris.
Tu voulais changer?
J'aurais bien aimé trouver un pseudo.
C'est vrai.
Par exemple, je sais pas si j'avais un prénom composé, un nom composé, j'aurais bien aimé juste mettre les initiales. Mais non, force est de constater que j'avais toujours pas trouvé de pseudo au moment de faire la première vidéo. Du coup, j'ai mis mon vrai prénom, Grégoire Dossier.
Bon, je pense pas que tu
mais
regrettes.
Mais c'est plus dur. Pour moi, c'est plus dur du coup de dire que je suis un personnage parce que comme c'est mon prénom et mon nom, ça pose d'autres questions.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais pour revenir, donc là, on parlait de YouTube, mais Eric Flagg, du coup, c'est pas seulement YouTube, c'est la partie de ta vie qu'on connaît parce que tu as commencé à la documenter sur YouTube. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que les gens le savent, ceux qui te suivent, mais tu as fait des études avant de te lancer sur YouTube et tu en as fait de longues, t'en as fait beaucoup d'années. T'as fait 5 ans d'études, c'est ça?
Plus. Ça dépend si tu comptes les années que j'ai redoublées, les années entre deux, je fais plus. Ouais, ouais, ouais.
Mais disons que tu as un bac plus 5 maintenant.
Je sais pas ce que c'est.
Ah,
que les bacs
en Suisse.
Je sais pas ce que c'est.
Bon, bac plus 5, ça veut dire que
j'ai eu mon bac, oui.
Non, oui, c'est même pas le bac en Suisse.
Mais en Suisse, on appelle ça la matu. C'est un espèce de bac, mais il n'y a pas de plus quelque chose.
Moi,
c'est juste tu l'as ou tu l'as pas, et une fois que tu l'as, tu peux aller à
l'université. Ok. Bon, bac plus 5 en France, c'est tu as fait 5 ans d'études.
D'accord.
T'as réussi.
Je savais pas.
En France, c'est 3 années de licence. Après, ça s'appelle le master.
Oui, alors en Suisse, c'est pareil.
Une fois que tu as eu ton master 2. Ça veut dire que t'es bac plus 5.
D'accord. Ah oui, alors d'accord. Alors oui.
Donc oui.
Bac
donc,
plus 5, manifestement.
Oui, voilà.
J'ai un master. Donc,
tu peux le dire avec... parce que du coup, les études en Suisse, ça doit être des noms différents. Mais est-ce que tu peux revenir sur ton parcours avant YouTube?
Bah, j'ai commencé YouTube à 27 ans. Donc j'avais quand même 27 ans de vie derrière moi avant. Et tout ce qui concerne les études... J'ai un peu suivi un chemin toute ma vie qui me semblait le plus à la fois facile et adapté à ce qu'il me fallait et correspondre à ce qu'on attendait de moi. Parce que moi, mes parents, ils sont les deux profs, plus ou moins, ils ont les deux fait l'uni. Mon grand frère, qui a 2 ans de plus que moi, il a fait les mêmes études que moi, plus ou moins. Et moi, j'arrive à la fin du lycée, donc l'équivalent du lycée en Suisse. Et pour moi, il n'y a pas question. J'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. J'ai 18 ans, j'ai redoublé la dernière année de lycée pour une erreur complètement stupide parce que je passais plus de temps à jouer aux jeux vidéo.
T'en as parlé dans un podcast.
qu'à travailler sur un travail qui était très important apparemment parce qu'il m'a fait redoubler. J'avais des très bonnes notes, mais j'ai raté un truc et boum, ça m'a fait redoubler. Alors le système était un peu bizarre, c'est vrai. Du coup, j'arrive à l'uni, je sors du lycée à 18 et demi, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, bah, c'est logique, je pars à l'uni. Je ne sais pas quoi faire, je pars à l'uni. Et à l'uni, comment est-ce que je choisis ma branche? J'ai fait HEC, donc business, commerce, un peu. Bah, par élimination aussi. En fait, je me disais, qu'est-ce qui m'intéresse? Le sport commençait à m'intéresser, mais c'est pas pour réduire le truc, mais je me voyais pas être prof de sport, j'avoue. Parce que je me suis dit, bon, bah, sport, bof. Non. J'hésitais entre droit et HEC. Droit parce que je trouvais ça stylé. C'était vraiment pas parce que je trouvais ça intéressant. Ça m'intéresse pas du tout.
C'est stylé, le droit. Hein.
Droit, ça envoie du pâté. Je me suis dit, la médecine, ça envoie du pâté, mais ça a l'air difficile. Donc, pas la médecine. Et je suis très content. La médecine, c'est vraiment une vocation qui n'est pas la mienne. Et du coup, je suis allé en HEC parce que j'aimais bien les maths. Et puis, je me suis laissé guider, en fait. C'est à ce moment-là que... J'ai commencé à me plonger à fond dans la musculation et la nutrition comme passion personnelle. C'est vraiment sur ma table de chevet, entre guillemets, c'était des livres de nutrition.
J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de ça dans une vidéo, tu disais que c'était pas des livres d'économie que tu avais sur ta table de chevet, c'était des livres de musculation et de nutrition et d'entraînement.
Dans ma vie à ce moment-là, et ça c'est aussi parce que les études, j'avais une certaine facilité qu'on se le dise, mais ma priorité numéro une dans mes semaines, c'était la muscu et bien manger. Et ensuite... Il fallait aller en cours, il fallait réviser, etc. Mais j'arrivais à tout faire ce qu'il fallait. Après, j'avais pas beaucoup d'autres trucs en dehors. Ouais, j'ai eu des copines à ce moment-là, mais ça va, les copines, elles n'étaient pas pendant la journée, on dira. C'était plutôt le soir et tout ça. Donc j'avais tous mes trucs qui rentraient bien. Et je me contentais de faire ce qu'il fallait à l'uni parce que je me dis, ok, bah, je m'engage dans une licence. En Suisse, on appelle ça le bachelor. C'est 3 ans. Bon, bah voilà, je fais mon bachelor. Après, j'ai fait une année de pause entre le bachelor et le master pour faire l'armée. On est obligé de la faire en Suisse, donc j'en ai fait une partie à ce moment-là. Je reviens en master. C'est un peu compliqué. Je glandouille pas. Ouais. Je fais ça comme il faut. Je pars en voyage en Australie, en échange en Australie à la fin pour 3 mois. Et quand je reviens, En fait, je m'y prends n'importe comment. Je suis vraiment un peu nonchalant toujours parce que je me pose des questions de est-ce que je suis vraiment pressé d'arrêter la vie d'étudiant, tu vois. Aujourd'hui, j'ai redoublé une fois le lycée. J'ai pris une année entre la licence et le master. Mon master, je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2 parce que j'ai fini le service civil et que j'ai fini le service militaire, donc 6 mois de plus. Et j'ai perdu 6 mois à ne pas trouver de stage, donc pour rien, on dira. Et donc, j'ai perdu 3 ans, on pourrait se dire. Et moi, j'arrive à la fin de mes études à 27 ans, je me dis, c'est la fin de la vie d'étudiant. La vie d'étudiant, j'ai adoré ça. T'as beaucoup de temps. Si t'as pas envie de te lever le matin pour aller en cours à l'UNI, t'étais pas obligé, il n'y avait pas de présence obligatoire. Et donc, je me dis, est-ce que je me réjouis d'arriver dans la vie corporate où t'as 4 semaines et demie de vacances dans l'année et que, en fait, tes collègues deviennent tes potes parce que t'as beaucoup moins le temps de voir tes potes en dehors. Donc, j'ai un peu repoussé le truc et ça m'a, en fait, donné du temps aussi pour réfléchir, notamment cette armée. J'ai fait un travail plus ou moins manuel.
Parce qu'en Suisse, il y a un service militaire imposé.
C'est ça, en Suisse, si tu es suisse et que tu es un homme, tu es obligé de servir ton pays. Donc, soit tu fais 9 mois de service militaire, ce qui prend du temps dans une jeunesse, soit tu fais le service civil, ce qui dure 13 mois. Mais là, au lieu d'être sur le terrain à tirer dans l'herbe, eh ben, tu vas travailler dans le social, la santé, dans des hôpitaux, des machins comme ça, pour servir ton pays autrement. Moi, j'ai décidé de faire cette deuxième option. Et
Ça t'a plu ?
Ouais, ça m'a plu énormément.
Je crois pas t'avoir entendu parler.
Ouais, j'en ai parlé rapidement à gauche et à droite de temps en temps, mais j'ai eu 2 affectations. La première, c'était entre ma licence et mon master. Et là, j'étais juste employé de bureau pendant 7 mois et c'était chiant, honnêtement, parce que je faisais tout et rien. En fait, on est de la main-d'œuvre gratuite. Pour les entreprises, parce que c'est l'État qui nous paye. Donc eux, ils nous prennent même s'ils n'ont pas grand-chose à nous faire, parce qu'on coûte rien. Donc je faisais tout et rien, c'était pénible. Mais
C'est un travail de bureau à l'armée ?
Non, là j'étais dans une association de jeunesse à Lausanne. En fait, quand tu fais le service civil, tu es engagé dans un domaine à but non lucratif, dans une entreprise à but non lucratif généralement, soit la santé, soit le social, soit la protection de l'environnement. Mais tu vas dans une vraie entreprise et donc tu as un vrai travail normal où tu rentres chez toi le soir à la fin de la journée. Et c'est ça que je voulais parce qu'à l'armée, c'est l'internat. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'être à l'internat et de ne pas avoir de vie en dehors de ça. Donc, c'est d'ailleurs... c'est marrant à dire, mais ce service civil où j'ai travaillé dans des entreprises avec un horaire normal, c'est mes seules expériences professionnelles où j'ai travaillé pour quelqu'un, on dira. Et c'est les seuls trucs auxquels je m'approche pour me dire « Ah oui, j'aurais fait ça si je n'avais pas été faire autre chose après mes études. » Et ça, ce n'était pas hyper motivant. Mais je me souviens que j'ai passé les 2 ou 3 premiers mois à me dire « Je m'ennuie, ça me prend 1 heure et demie d'y aller, 1 heure et demie de revenir. J'ai pas de vie, j'aime pas ce que je fais. À quoi bon ? C'est chiant. » Et du jour au lendemain, entre guillemets, j'ai vu le truc autrement et je me suis dit « Mais en fait, tout ça, c'est du temps que je peux consacrer à apprendre en fait autre chose. » Parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit « La muscu, c'est trop bien. J'ai envie d'apprendre des trucs encore plus sur la muscu. » Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on me demandait de faire au travail le plus vite possible et je lisais des PDF, des livres dans le coin de mon écran sans qu'on me voie. Et je faisais ce qu'on me demandait pendant 15 minutes. Ensuite, je lisais pendant 15 minutes. Ensuite, je disais « Hey, j'ai terminé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Et on me disait « Ah, déjà, trop bien. Alors maintenant, tu peux faire ça, ça, ça. » Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde y gagnait, tu vois. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé cette période.
C'est intéressant ce que tu dis parce que, donc, toi, la musculation, c'est le premier domaine où tu t'es rendu compte qu'il y avait des connaissances potentiellement infinies à apprendre. Et ça t'a donné envie de devenir un peu une machine à apprendre et d'optimiser les moments dans la journée où tu peux apprendre, en fait.
C'est ça. En fait, c'est peut-être pas le premier domaine où je me suis rendu compte que la connaissance était infinie. Parce que si tu te retournes un peu autour de toi, tu vois ça. Mais c'est c'est le premier domaine où ça m'a donné envie d'apprendre, en fait. De me dire, il y a toutes ces options, j'ai envie d'en savoir plus, encore plus, toujours plus. Parce que ça me semblait à la fois passionnant, mais en plus, je trouvais ça cool de les effets que ça pouvait avoir sur moi, de contrôler à la fois à quoi je ressemble, comment je me sens, comment les autres me perçoivent, etc. Et ouais, j'ai beaucoup... C'est vraiment ma première passion.
Parce que moi, tu vois, moi, j'ai jamais été le premier de la classe. Et pour moi, les personnes qui apprenaient tout le temps, c'était les premiers de la classe. Mmh. Et j'avais une connotation négative justement du gars qui essaie de tout le temps apprendre dans sa journée. Parce que pour moi, c'était le premier de la classe qui apprenait de l'histoire, qui allait plus loin que le cours. Tu vois, c'était le conseil qu'on donnait à l'école pour avoir des points en plus, pour avoir la meilleure note possible. Et j'avais cette vision un peu négative d'apprendre des choses en plus. de ce qu'on nous apprend à l'école et d'aller toujours plus loin dans l'apprentissage. Sauf que moi aussi, j'ai découvert des domaines comme ça, comme la musculation, comme ce dont je peux parler sur YouTube, l'investissement. Il y a plein de jeux infinis, il y a plein de domaines infinis, en fait, où tu auras toujours des choses à apprendre. Et lorsque j'ai découvert ça et que je me suis rendu compte que ça pouvait être cool d'apprendre aussi, que c'était pas juste... Il y avait 10 000 façons d'apprendre, il y avait 10 000 supports pour apprendre, bah moi je me reconnais dans ce que tu dis. Et quand j'ai eu mon travail l'été, j'ai fait un job salarié saisonnier, et je me rappelle que oui, au début j'allais au métro, je prenais le métro, c'était à Paris, et à chaque fois j'y allais, j'écoutais de la musique et j'avais ma routine, et j'ai switché au bout de quelques jours. Je me suis dit, pourquoi pas écouter des livres audio, pourquoi pas, pour apprendre des choses, pour juste optimiser mon temps un petit peu plus. Et une fois que je me suis rendu compte que oui, on pouvait apprendre toute sa vie et qu'on devait apprendre toute sa vie si on voulait être plus épanoui, ben je suis rentré aussi dans ce jeu un petit peu infini d'apprendre tout le temps dans les domaines. Mmh. Et la musculation m'a aidé à trouver justement un puits de connaissances infini, tu vois. Et toi aussi, du coup.
Mmh. Et c'est cette histoire d'optimisation de tes trajets, de tes transports, de ta vie en général, c'est justement quelque chose que j'ai de plus en plus cultivé. Après qu'on voit ça, évidemment, pousser tout à l'extrême, c'est jamais bon, mais c'est vraiment à partir de là où je me suis rendu compte de l'étendue de choses qu'il y avait à apprendre, de l'étendue de choses que j'avais envie d'apprendre à propos de tout ça, et du peu de temps que j'avais, parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont commencé à me donner envie, et de me dire, en fait, si je peux me prendre de passion pour apprendre ça, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Du coup, putain, la vie, mine de rien, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas spécialement le temps de ne rien faire, de perdre 2 heures par jour dans le train à regarder dehors, alors que je pourrais éventuellement apprendre des trucs qui me donnent envie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans de l'apprentissage. Parce que comme toi, comme tu l'as dit, moi, jusqu'à la fin de ma licence, balèque complet d'apprendre des trucs. Vraiment, pour moi, c'était l'école, c'est obligé. Il faut que tout le monde soit content. Les parents, la société, je ne sais qui. Donc, on fait des bonnes notes, mais on ne va pas en apprendre beaucoup plus que ce qu'on nous demande. Parce que pourquoi ? J'ai pas envie. Et c'est vrai que très longtemps, et à cause de l'école, on dira, je pense que chez pas mal de personnes, cette notion d'apprentissage est mélangée avec cette notion de bourrage de crâne forcé parfois qu'on peut ressentir à l'école, et c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile et que c'est peut-être bizarre la première fois que tu lis un truc et que tu te dis mais j'ai envie de lire plus sans qu'on me demande de le faire. Et c'est à partir de là que tu dis ah mais en fait, enfin que je me suis dit manifestement c'est trop bien, j'en veux plus. Du coup je vais essayer d'en bourrer autant que je peux dans ma journée de travail qui ne me plaît pas, et qu'à chaque instant où je peux faire autre chose que ce travail qui ne me plaît pas, eh ben je vais le faire. Et ça m'a donné envie que ce travail qui ne me plaît pas ne s'arrête jamais. Honnêtement, j'ai passé les 3 premiers mois de cette affectation à me dire j'en peux plus, je me fais trop chier, et les 3 derniers mois à me dire putain, il faut que je profite de chaque jour parce que ça va s'arrêter malheureusement et je ne pourrai plus être sponsorisé par l'État à lire des livres. Tu vois, c'est alors que je faisais exactement le même travail, tu vois. Et c'est là que je me suis dit waouh, mais c'est trop bien.
C'est exactement ce qui s'est passé avec mon travail aussi, où ouais, quand en fait c'était plus 30 minutes de métro, c'était 30 minutes de livre audio. Mmh. Je peux avancer dans mon livre, je peux apprendre des choses. Alors évidemment, le plus dur, c'est de trouver un thème quand même qui nous plaît. Nous, on a trouvé nos passions à nous, mais en même temps, il y a aussi, j'ai l'impression, des domaines qui peuvent passionner énormément de personnes en fait. Je vois pas qui ne peut pas être passionné par le corps humain, par apprendre à prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. C'est quand même les 2 endroits dans lesquels on habite au quotidien, tu vois. Mmh. Donc je vois pas, j'ai toujours du mal à donner des conseils aux personnes qui me disent comment est-ce que je fais moi pour trouver ma passion, parce que moi en effet j'ai trouvé mes passions assez jeunes, mais en même temps moi ce qui me passionne c'est vraiment pas des choses originales quoi.
C'est vraiment pas besoin d'être dans l'originalité, je pense, pour avoir une passion valable.
Mais c'est vrai que ça aide, parce que tu vois les choses différemment quand t'as des choses à apprendre, quand t'as des choses à faire, quand tu t'occupes en fait. Mmh. Et donc moi je me reconnais à fond dans ce que tu dis. Et donc en plus, quand tu apprenais ces cours pour revenir à tes études et ce service du coup où tu apprenais des choses sans t'en rendre compte, tu préparais ton échappatoire pour un prochain métier qui allait plus te plaire.
Exactement, c'est comme ça que je me suis retrouvé à ne pas continuer dans les études après. C'est qu'il y a eu ce break avant mon master, il y a eu cette révélation de j'adore apprendre des trucs, mais pas apprendre ce qu'on essaie de m'apprendre à l'université. Et là, je suis arrivé en master après. Et pendant ces 2 ans, eh bien, j'ai continué à travailler en parallèle de mes études sur les choses qui me plaisaient vraiment et que j'ai de plus en plus maîtrisé mon propre corps vis-à-vis de la muscu et de la nutrition. Enfin, c'est ça qui me plaisait le plus. Et d'ici la fin du service, d'ici la fin de mon master, j'ai encore fait une deuxième affectation de service civil qui m'a à nouveau demandé de faire un travail plutôt manuel, qui m'a laissé beaucoup de temps en fait dans ma tête pendant la journée. Quand tu fais un travail manuel, moi je me fais un peu chier dans ma tête, donc il faut que je pense à des trucs. Du coup, je pense à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apprendre, ce sur quoi je veux travailler, le livre que je suis en train de lire. Et tout ça m'a donné envie en fait à la fin de mes études, globalement, de tenter quelque chose sur YouTube en fait.
Ok, donc là je vais bien revenir sur ce moment parce que pour moi c'est un des moments les plus importants de ce podcast et de ta vie aussi. Alors à toi.
J'ai abrégé volontairement parce que ça peut être long.
Mais c'est vrai que pour parler des études, tu as déjà fait une vidéo que je trouve très bien sur le sujet où tu illustres bien, je trouve, la double vie que tu avais avec tes études où tu apprenais, mais tu le faisais parce que, pas forcément parce que c'était ta passion à toi, mais parce qu'il fallait le faire et tu voulais pas décevoir aussi les personnes autour de toi. Et en même temps, tu avais ta passion à toi avec le sport, la nutrition, l'amélioration de soi. Et il y a eu ce moment-là donc, où tu finis tes études et tu fais une vidéo sur le sujet où on te voit avec le chapeau, ouais. Comment est-ce qu'on appelle ça ?
La toque, je sais pas.
La toque.
La toge,
ouais. Mais il y a aussi un petit chapeau là, ouais, pour les diplômés. On te voit, tu as filmé la fin de tes études. Et ça m'a inspiré moi aussi à filmer la mienne. Tu sais, j'ai filmé il y a quelques mois là. Et c'est vrai que j'ai bien aimé l'idée de filmer la fin des études. Et on te voit tenir le diplôme. Et tu dis, je sais pas si ça va me servir honnêtement plus tard. Peut-être, on verra. Mais on voit dans la voix que tu sais déjà d'avance que tu seras pas dans le domaine bancaire parce que c'était lié à ton master. Et moi, ça m'a plu. Enfin, j'ai bien aimé l'illustration. Et d'ailleurs, tu fais une figure de street workout dans ton université, dans la vidéo. Et je trouve que ça illustre un petit peu, je vous montre ce qu'est ma vraie passion, et tu le fais en étant habillé en tant que diplômé. Enfin,
ouais, c'était une petite provocation personnelle.
Tiens, regardez, je sais faire des copies, mais je sais aussi faire des handstands.
Ouais, c'est voilà. Ça. Je préfère faire des handstands que faire de la finance, effectivement.
Et voilà, donc chaque personne qui regardera la vidéo, je sais, comment est-ce que ça s'appelait déjà ?
De la finance à YouTube.
Pourquoi ? Un truc comme ça.
Oui, un truc du genre.
Ou peut-être dans la miniature, pourquoi, mais tu as fait une miniature pourquoi où il y avait donc le futur Eric avant, qui aurait été corporate, le Eric corporate, on va dire, avec, tu avais une veste, et de l'autre côté, tu avais le Eric YouTuber sur la miniature.
Alors, à gauche, j'avais le Eric gradué avec la toge et le diplôme,
ah,
et
oui,
à droite,
c'est ça, la
j'avais le Eric YouTuber qui se filme en vlog.
Diplômé, ouais. Et donc...
C'est de la finance YouTuber. À YouTube, pourquoi ?
C'est ça. Et cette vidéo, elle est très bien, donc je vous incite à la regarder si vous aussi, vous êtes un étudiant qui par exemple, vous sentez un petit peu entre deux, c'est-à-dire que les études, c'est pas forcément votre passion, et qu'en même temps, vous savez pas vraiment quoi faire d'autre. Mais toi, du coup, tu as trouvé quoi faire d'autre, parce que tu t'es lancé sur YouTube à 27 ans, et c'est ça justement que je trouve un point intéressant.
Par rapport
non,
à toi,
justement, est-ce que toi, à 27 ans, tu as trouvé que tu t'étais lancé ça tard sur YouTube ?
Au moment où je me suis... Tu dis vis-à-vis de mon âge à moi.
De ton âge. Est-ce que tu t'es senti vieux par rapport au...
Je ne me suis pas senti vieux. En fait, je t'avoue que je me sens beaucoup plus vieux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je suis avec des mecs comme toi qui ont 23 ans ou des mecs comme Mathias, comme Arthur. Là, pas mal de mes potes youtubeurs qui sont devenus mes potes aussi de cette façon-là ou qu'ils l'étaient déjà avant, quasiment tous sont plus jeunes que moi, en fait. Et donc, je ne me sens pas spécialement jeune aujourd'hui. Après je me dis c'est pas grave, je peux pas changer ça. J'ai bientôt 31 ans, mais c'est pas grave. Je suis content d'où j'en suis à 31 ans. Après forcément si je me dis moi à 22 ans, j'étais très loin d'être moi à 22 ans, je branlais rien toujours hein. Tu vois, donc je suis très admiratif de voir que beaucoup de gens font ça peut-être plus tôt, peut-être parce que si j'étais né 5 ans après, peut-être j'aurais commencé plus tôt aussi, j'en sais absolument rien. Mais non, quand j'ai commencé non, parce que je ne me comparais pas spécialement aux autres, on dira. Là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens plus jeunes que j'admire personnellement et je me dis, ah ouais, moi à 22 ans, je n'étais pas comme ça.
Okay. Donc, mais qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête au moment où tu viens d'avoir ton diplôme et tu commences à acheter une GoPro, tu commences à acheter le starter pack du YouTuber qui veut se lancer. Et comment est-ce que ça se passe cette période ? Parce que tu as lancé ta vidéo, ta première vidéo, en tout cas en ligne sur YouTube actuellement, elle est en novembre 2017.
Ouais.
Et tu as dû finir tes études donc l'été d'avant.
Ouais, il y a une petite note à ce propos, c'est qu'en fait, j'ai reçu mon diplôme début décembre 2017. Donc, le moment où je me filme après avoir reçu mon diplôme, j'ai déjà publié deux vidéos sur ma chaîne.
C'est pour ça que tu avais déjà un petit peu le youtubeur, voilà.
Je vais vlogger ma remise ou je vais prendre des images de ma remise parce que, sait-on jamais, j'ai sorti deux vidéos. Si ça se trouve, je vais en sortir plus. Et c'est justement ce que je dis à la fin de cette remise. Parce qu'à la fin de la remise, je pose la GoPro et en vrai, je parle pendant bien 25 minutes. J'en ai gardé quelques extraits parce qu'il y en a d'autres que je garderai pour des vidéos plus tard.
Oh,
oh là là,
oh là, là.
Ah oui, je me suis chauffé à ce moment-là. Parce que j'étais convaincu que j'allais faire ça, en fait. Et c'est ce que je voulais faire transmettre en quelques phrases dans cette vidéo. Parce qu'en fait, quand je me suis filmé en train de recevoir mon diplôme à la fin, vraiment, j'avais d'un côté le diplôme, en face de moi ma caméra, et je me suis dit... J'ai pas envie de m'occuper du diplôme, j'ai envie de m'occuper de la caméra, tu vois. Et c'est pour ça que, pour en revenir peut-être à ta question, qui était...
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ?
Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je termine officiellement mes études début septembre. Donc c'est quand même 3 mois avant la remise et 2 mois avant ma première vidéo. Là, je me dis, c'est le moment ou jamais en fait. Parce que j'ai fini mes études, donc j'ai validé mon contrat avec mes parents, mon contrat avec la société qui est que faut être un bon élève et faire des études et aller trouver un travail. Donc maintenant j'ai ça, j'ai un parachute et une carte joker facile à présenter à tous ceux qui me diraient « qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et là je me suis dit « bon bah c'est le moment d'essayer de les prendre à contre-pied
». Tu n'as pas vu venir celle-là.
Je vais passer par derrière, je vais ranger mon costard aussi vite que je l'ai sorti. Et je me suis dit « mais en fait c'est le moment de prendre des risques en fait ». Parce que j'ai toute ma vie, j'étais dans le courant, j'ai l'impression. Toute ma vie jusqu'à 27 ans, je me suis posé le cul dans le courant et je me suis laissé emporter. Ok, qu'est-ce que tu fais quand tu sors du lycée ? Bah, tu fais comme tes parents ou ton grand frère, tu vas à l'uni, tu fais pareil, tu te laisses guider. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être finir par me demander qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et je me suis rendu compte que c'était maintenant qu'il fallait que je prenne un risque. C'est-à-dire, je peux essayer de lancer un truc, ça se trouve en 6 mois. Je sais que j'aime pas du tout ça. Bah, c'est parfait. J'aurai pas de regrets plus tard en allant trouver un travail parce que j'ai essayé. Si ça se trouve, en 6 mois, ça commence à donner quelque chose et je me dis, bah, ça peut marcher. En fait, j'avais l'impression d'avoir peu à perdre. C'était à la fois, je prends des risques, mais à la fois, c'est des risques ultra mesurés parce que je me suis dit, si je fais ça, évidemment, il faudra que j'en discute avec mes parents. Si eux, ils sont d'accord que je reste dormir chez eux, eh bah, je peux très bien essayer éventuellement de lancer quelque chose. Et donc, au début, je cherchais du travail. Mais je travaillais sur ma première vidéo dans ma tête. Ma première vidéo m'a pris 2 mois et demi à faire parce que j'ai passé 1 mois et demi à travailler des images de montage que j'avais tournées en one shot qui étaient dégueulasses. Et je me suis dit, c'est pas grave, on va rattraper ça au montage. Le problème, c'est quand c'est vraiment pourri ce que t'as filmé, c'est super dur à rattraper au montage. Donc j'ai fini par tout jeter et tout refilmer. Et c'est là qu'est sortie ma première vidéo 2 mois et demi après. Mais au début, je cherchais du travail sans succès. Et ensuite, je continuais à dire à mes parents, je cherche du travail. Ben, je trouve rien, mince. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher du travail, mais je continuais de le dire à mes parents. Et en janvier, j'ai eu la discussion avec mes parents comme quoi je pouvais plus me cacher, plus longtemps que ça. Je commençais à faire des vidéos, je savais que j'avais envie de continuer et qu'il fallait que je puisse le faire dans des bonnes conditions qui n'étaient pas d'avoir peur du jour au lendemain que mes parents le découvrent, que je cherche pas du taf et que ça leur plaise pas.
Donc t'as feinté en fait au début.
Ouais.
T'as feinté.
Ouais, j'ai vraiment fusionné les deux. Au début, je mentais pas, je cherchais vraiment. J'ai vraiment postulé à quelques trucs. Il y a quelques trucs qui me semblaient, pourquoi pas, ça aurait pu me plaire, bien sûr. Mais secrètement, j'avais pas envie qu'ils me contactent, tu vois. J'avais pas du tout envie de devoir mentir ouvertement en mode, ah non, j'ai pas eu de réponse.
Eric, on vous accepte, Eric. Oh non, 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 non.
Je vais y réfléchir. J'ai une autre offre.
Je vous répondrai dans 7 jours.
Un certain Google m'a proposé un contrat, il faut que je réfléchisse aussi. Donc tu vois, je suis transitionné gentiment.
Et moi, je dirais que donc moi j'ai connu exactement la même réflexion, je dirais. Alors moi, ça s'est pas passé exactement comme ça parce que moi j'ai eu la chance que c'est ça un petit peu la différence, c'est que toi t'as arrêté tes études, on les a terminées et t'as fait vraiment la transition après go sur YouTube. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu trouver le moyen de me lancer sur YouTube. Quand j'étais encore étudiant. Et du coup, mes parents, lorsque j'ai terminé mes études, ils m'ont pas. J'ai pas eu besoin de feinter en disant je cherche du travail. Ils savaient, en fait.
Ouais, ouais. T'as pas débarqué du jour au lendemain avec un grand plan comme quoi t'allais trouver.
Ça, c'était ma chance. Et tout. C'est ma chance, j'avoue. Mmh. Mais quand même, comme je le disais en début de podcast, c'est pas commun que des personnes fassent 5 ans d'études pour ensuite se lancer à plein temps sur YouTube. Et là, on est entre nous, on est tranquille. Enfin, on est content des positions qu'on a actuellement.
Et chez moi, dans mon canapé.
Exactement. Mais là,
on est
bien. Mais c'est vrai que ce que les gens ne voient pas, je pense, c'est l'inconnu qu'il y avait, en fait. Je pense que y a un mot qui définit bien ce saut un petit peu dans l'inconnu. C'est, y a un mot qui définit bien, c'est l'inconnu. Et moi, franchement, même si j'étais comme toi, confiant que ça allait le faire, quand je me suis lancé à plein temps sur YouTube, quand j'ai commencé YouTube, j'étais assez confiant parce que je me disais, j'ai quand même quelque chose à apporter, j'ai des connaissances, en tout cas, j'ai quelque chose à proposer. Et si ça se passe pas bien, bah tant pis, j'utiliserai les diplômes que j'ai. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un mot, c'est, pour moi, c'est l'inconnu. C'est le sentiment de construire quelque chose où il n'y a pas de chemin. Tu vois, il n'y a pas ce chemin comme dans les études où on te donne un programme, on te donne un planning. Et justement, puisqu'on parle d'inconnu, j'ai déniché une petite... je t'en ai pas parlé.
Qu'est-ce qui va me sortir?
Je précise.
Non, je ne sais pas ce que tu vas me sortir. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Des vieux dossiers?
Alors...
Des vieux dossiers?
Pour donner du
contexte. Grégoire Dossier, il est allé fouiller.
J'ai auto-placé le mot inconnu parce que je sais que c'est le mot qui va être important dans le message que je vais te montrer. Mais pour donner un petit peu de contexte au podcast, l'autre jour, quand je préparais le podcast, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos pour me renseigner. C'est pour ça que je sais que tu as commencé en novembre 2017. Et je suis tombé sur une vidéo d'Elio cette fois-ci, un de tes commentaires qui était en top commentaire, où Elio parlait d'un podcast sur le déséquilibre.
Ouais.
Tu vois à peu près...
Ah,
de...
donc un de ces podcasts récents qu'il a fait
ouais,
il y a quelques
mois.
Oui, c'est ça. D'accord, oui.
J'ai et commenté. Toi, donc j'afficherai le message pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Mais voilà ce que tu avais écrit.
Ces discussions qu'on a eues pendant cette période de commencement et d'inconnu qui plus est, dans le top de mes meilleurs souvenirs de ces 5 dernières années, merci, cœur bleu sur toi, Elio.
Qu'est-ce que c'est cet inconnu, en fait, Eric? Est-ce que tu pourrais nous parler de cette période? Et je le dis parce que, tu en parles comme tu veux, mais j'ai rarement vu un YouTuber parler de l'inconnu que c'est, de la sensation qu'on ressent lorsqu'on se lance à plein temps sur YouTube, alors qu'on a eu un chemin assez classique avant. Parce que c'est plein de réflexions, en fait, et je pense qu'il y a peu de personnes qui se rendent compte du nombre de réflexions que c'est lorsqu'on veut se lancer dans une activité comme ça.
L'inconnu, c'est je sais pas exactement comment décrire ce sentiment, parce que d'un côté je me suis dit, je me jette dans le vide, je sais pas ce que je fais. Je veux faire des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que j'aimais bien les vidéos de Cyprien Norman et tout 10 ans avant, et je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire des vidéos moi aussi. Ça, c'était 10 ans avant et ça a dû naître un petit peu de là. Et d'un côté, quand je me suis jeté dedans, je ne savais rien. Je ne savais rien faire. Je ne savais pas filmer, pas monter, pas... rien du tout. Donc, il fallait apprendre tout ça. Donc d'un côté, il y avait ce sentiment d'inconnu, de « je ne comprends rien à ce que je fais, il va falloir que je me démerde si je veux que ça donne quelque chose ». Et d'un autre côté, il y avait ce sentiment « je ne comprends tellement rien à rien qu'il faut absolument... » Enfin, j'ai vraiment pas le temps de me dire « ça va marcher, ça va pas... » Non, je dois apprendre à faire ça. Du coup, j'ai la tête dedans, H24, en mode « putain, je me mets la pression, il faut que ça marche, parce que si ça marche pas... » Bah, j'aurais fait un truc qui n'a pas marché, et moi, quand je fais des trucs, j'ai envie que ça fonctionne. En plus, mes parents comptent sur moi, etc. Je me suis assez peu laissé le temps d'avoir peur, j'ai l'impression. Je me suis dit, surtout... Après, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai eu un petit peu peur au début, et quand je parlais de ce commentaire avec Elio, c'était avant que je lance ma toute première vidéo, c'était les 2 ou 3 mois avant, parce que je parlais avant de cette vidéo irrécupérable en montage. C'est avec Elio que j'ai commencé à la travailler, parce que Elio avait de l'expérience sur YouTube de son adolescence, et je suis devenu pote avec Elio, je l'ai rencontré à ce moment-là, et on a tout de suite connecté parce qu'on pensait pareil sur beaucoup de choses, et je lui ai demandé des conseils au tout début sur YouTube, et il avait regardé la vidéo avec moi. Et c'est pendant tout ce moment-là que on se chauffait l'un l'autre, tu vois, on sentait que, et c'est pour ça qu'on a connecté aussi bien et vite avec Elio, c'est que lui-même...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Commencer une chaîne YouTube et lui-même avait cette faim de vouloir... il avait faim aussi de vouloir relancer quelque chose et on a vraiment connecté là-dessus. Donc en fait, on se boostait l'un l'autre, on s'envoyait des messages vocaux en mode on a lu un livre qui nous a chauffé, on l'envoie à l'autre, on a lu une citation, vas-y machin, il aurait pas dit ça. On se chauffait un peu et c'est vrai que... moi, ça m'a donné la confiance. Et c'est de là aussi qu'est venu ce sentiment de « je pense que je vais réussir, en fait ». Et cela, doublé au fait que j'avais absolument pas le temps, j'avais l'impression, si je voulais faire mes preuves, parce qu'avec mes parents, on avait un petit contrat en mode j'avais 8 ou 9 mois pour commencer à sortir, à faire de l'argent un petit peu et pouvoir gagner ma vie, j'avais vraiment pas le temps. Je me suis dit « j'ai un délai ». Et ça, c'est parfait, parce que j'avais un objectif timé, avec un délai, avec un truc précis, un bon objectif. Et je me suis dit, bon, bah ok, c'est ma chance. J'ai ces 9 mois pour faire ça. Est-ce que, peu importe, hein, tu vois, que je doute pas, j'ai 9 mois, ils sont là. Et à la fin, on regarde le résultat. Le résultat, c'est pas à quel point j'ai douté tout le long. C'est, est-ce que tu as atteint l'objectif ou pas? Et moi, je me suis dit, peu importe si j'atteins l'objectif ou pas. Ce que je veux, c'est qu'une fois que j'y suis, je puisse pas me dire, je l'ai pas atteint parce que j'ai rien branlé la moitié du temps. Et, ou parce que, alors oui, ça aurait pu être parce que j'ose pas, parce que je ne sais pas, parce que j'avais peur, mais je me suis tellement retrouvé à crouler sous tout ce qu'il y avait à faire que en fait j'étais constamment dans l'action et constamment dans il faut faire ça. Et j'avais pas beaucoup le temps de refléter sur le parcours, la beauté du processus plutôt que la destination. C'est vrai que j'étais là en mode bon bah ok, pression de ouf parce que c'est ça ou rien et je veux pas avoir de regrets. En fait.
Bah, ça me parle beaucoup. Il y a deux choses importantes selon moi qui t'ont poussé à agir justement parce que le plus dur c'est il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur YouTube maintenant et il y en a assez peu qui tentent, je trouve. Moi j'ai vu des potes tenter aussi ces dernières années.
Moi aussi, ouais.
Ouais, c'est marrant, enfin c'est cool de les voir et souvent ils respectent beaucoup plus après le travail du YouTuber. C'est un petit peu comme une personne...
Qui m'a dit... Oui, une amie qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, elle m'a dit ça après. Ouais,
ouais, bah, ils se rendent compte que c'est dur, mais Il y a plusieurs points. Donc déjà, j'avoue, tu avais Elio quand même qui était sur qui avait de l'expérience avec YouTube parce qu'il avait une chaîne YouTube avant. Et moi, quand j'ai entendu ça dans ta vidéo, j'étais putain, moi aussi j'aurais trop aimé avoir un pote YouTuber quand je me suis lancé parce que il y avait vraiment personne dans mon milieu.
J'ai eu beaucoup de chance.
Ouais. Après t'as construit ta chaîne YouTube aussi et il y avait pareil ta personnalité. Vous avez pas fait de feat en fait peu au début.
Non, mais... on était potes. On est vraiment devenus amis avant d'être collègues. On est vraiment devenus collègues par la force des choses, parce qu'on a les deux relancé quelque chose et ça a marché.
Mais ça, j'avoue que c'est cool. C'est un peu comme quand tu te lances dans la muscu et qu'il y a un pote qui s'est fait quitter juste avant. Du coup, il est chaud pour venir avec toi à la salle. Et
tu deviens pote.
C'est ça. Ben non, c'est cool. Ben, c'est une belle... c'est beau. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé, j'avoue, à mes débuts sur YouTube. Donc, il y a eu ça qui t'a aidé, parce que quitte à sauter dans l'inconnu, autant sauter à deux et ça fait peut-être un peu moins peur.
Main dans la main avec Elio.
J'avoue, ça va un peu romance.
Ouais, il faut pas trop l'imaginer ça fait on était plutôt en mode brainstorm, écrire des trucs, lire des livres et tout.
Ça fait romance.
Plus viril quand même.
Du coup, il y avait ça. Tu t'es imposé aussi, ce qui est, je trouve, une bonne idée. Tu t'es mis 9 mois de deadline, on va dire. Donc pas trop court. Tu t'es pas laissé qu'un mois pour vivre de ton activité sur YouTube, ce qui aurait été impossible. Et tu t'es pas laissé.
J'ai réussi à en vivre en 9 mois. Hein, mais...
Oui, mais au moins, il y avait cette deadline.
Il y avait un deadline.
Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce podcast, là, tu vois, que j'ai lancé il y a quelques semaines. Mm-hmm. Je me suis dit, je me suis laissé un an pour voir comment le podcast avance. Mais j'avais, comme toi, plein de trucs à apprendre. Le son, la vidéo, certains peuvent se dire, il fait déjà des vidéos sur YouTube, Grégoire, c'est pareil de lancer un podcast. Bah non, un podcast si tu veux utiliser des caméras, si tu veux utiliser un micro. Là, je parle avec un micro que j'avais pas il y a quelques semaines. On enregistre avec un mixeur.
Avec un setup de ouf que j'ai
incroyable,
jamais vu.
Incroyable, incroyable setup.
Il est bien équipé. Ah, il a fait le taf. Ouais.
Mais voilà, plein de trucs que je savais pas en fait faire avant. Et donc, en effet, t'avais tellement de choses à faire que t'avais pas le temps de sur-réfléchir et de sur-essayer d'optimiser ce que tu faisais.
Je me suis pas laissé être tétanisé devant tout ce qu'il y avait à faire. Parce que je
une chose à la fois,
voilà,
c'est un peu comme ça que tu vois les choses.
Exact, une chose à la fois, bah, il faut faire une vidéo, donc j'apprends à filmer, je me filme, ça marche pas, je réessaye, je refais. Ensuite, il faut faire le montage, j'y comprends rien, purée, ces montages, c'est incompréhensible. Le son, ah, pourquoi est-ce qu'au début de la vidéo c'est trop fort et à la fin on me dit qu'on n'entend plus rien. Ah, il faut équilibrer le son, putain, mais j'en savais rien, personne m'a dit ça. Ensuite, il faut faire une miniature, il faut faire Photoshop. Ensuite, il faut faire le marketing de ta vidéo, il faut en parler sur les réseaux, il faut faire des stories facecam et parler à quelqu'un comme si tu avais déjà des gens qui. Est-ce qu'il faut que je parle comme s'il y avait déjà beaucoup de gens qui m'écoutent, comme si j'étais déjà quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je fake it until je le make it, tu vois?
Merci d'en parler. Il y a trop de choses à. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, du nombre de choses que je savais pas faire, j'ai un peu essayé de prendre le problème. Donc le problème, c'est que je sais pas monter, je sais pas tourner, je sais pas parler une caméra, je sais pas gérer la lumière, je sais rien faire.
Ça
en
va
fait.
Plus vite de regarder ce que tu sais faire.
Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais comme toi, je décomposais le problème et une chose à la fois. Genre, je vais pas m'occuper de comment est-ce qu'on tourne une vidéo. Là, je suis sur le montage, j'essaye d'apprendre le montage, d'apprendre les bases du montage. Et donc, toi, t'as vécu un peu les mêmes interrogations.
Ouais, c'est ça.
2 ans avant moi, par contre. Mais 2010, t'as commencé en 2017.
J'étais plus âgé.
Ouais. Mais donc, c'est intéressant ça. Et donc tu te lances sur YouTube. Tu commences à faire tes premières vidéos. Moi, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça a très bien marché tout de suite, tes vidéos.
Ah, les miennes?
Parce que, ouais. Ah oui, non, moi non. Moi, il a fallu quelques mois.
Ouais.
Et il a fallu aussi une mise en avant du monde des étudiants pour que je commence à venir sur YouTube et à me faire repérer justement par d'autres YouTubeurs. Mais comme moi, je t'ai découvert quand tu faisais cette vidéo sur les courses et que tu avais déjà... ça commençait à bien marcher à ce moment-là. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est très bien passé dès le début.
Ouais, mais je vais pas... Typiquement, pour vite revenir sur un de mes meilleurs potes qui a voulu lancer sa chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, il lance ses premières vidéos. Il se passe pas grand-chose. Et pour moi, en fait, soi-disant, et c'est ce que j'aurais tendance à lui dire, c'est bah, en fait, c'est normal quand tu fais des vidéos au début que personne ne les regarde. C'est normal que peut-être ça prenne 1 mois ou 5 ans avant que ça commence à marcher. Et au bout d'un moment, on en parle de plus en plus, et à peine on commence à en parler plus. Et là, force est de reconnaître, je lui dis, bah, en fait, malheureusement, je peux pas t'en dire plus, je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu le fait de publier 25 vidéos de suite et qu'il n'y ait aucun retour. J'ai jamais vécu ça, et je ne sais pas comment j'aurais réagi, et je ne peux pas te dire, oh, il faut cravacher, moi je l'ai fait ou moi je l'aurais fait, tu vois, parce que moi, dans la vie, j'ai de la discipline et tout. Non, j'ai pas eu à faire ça, tu vois. Moi, j'ai fait mes vidéos, et à chaque vidéo, j'avais un feedback immédiat et positif que j'allais dans la bonne direction. Généralement, c'était au moins autant de vues, un petit peu plus de vues. Il y a des gens qui s'abonnent tous les jours, apparemment. Oh, il y a eu 3 abonnés aujourd'hui. Putain, ça en fait 3 de plus que hier.
Ah, donc 3 abonnés, t'étais content
Ouais, mais moi, j'étais trop content quand je voyais des petits incréments au début. Mais j'ai toujours eu des incréments, en fait. Jamais j'ai eu l'impression d'avoir stagné de ouf. C'était une pente pas très élevée, mais c'était une pente quand même. Donc, c'était positif.
Parce que moi, il me semble qu'il m'a fallu 3 mois pour avoir les 1000 abonnés. T'as connu une croissance plus élevée, non?
Ouais, je me souviens. Mes premiers objectifs, on en parlait avec Elio et un autre pote juste avant que je commence ma première vidéo. Donc ma première vidéo, je la sortais en mi-novembre. Et mon objectif, c'était 3000 abonnés avant la fin de l'année. Donc 1 mois et demi après. Et ensuite, je voulais faire 100 000 à la fin de l'année d'après et 1 million à la fin de l'année encore d'après. Donc, ça c'était mes objectifs. Tu vois. J'avais déjà posé ça. J'étais là, ouais. On fait x10, c'est bien sur une année. Parce que j'étais dans ce mood aussi grâce à nos discussions avec Elio et un auteur qu'on aimait beaucoup qui s'appelle Grant Cardone, qui avait fait un livre qui s'appelle 10X, The 10X Rule. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te fixes un objectif, bah, en fait, tu te le fixes 10 fois plus grand. Comme ça, tu es sûr de donner tout ce que tu as. Et à la fin de cette première année, après 1 mois et demi, eh bien, j'étais à 2900 abonnés, quelque chose comme ça. Après mes 4 premières vidéos, sauf erreur.
Et ah donc, oui, d'accord, oui, ok.
Et donc, c'est parti rapidement.
Après, oui, moi j'avais une vision très moi je voulais faire beaucoup de vidéos pour apprendre le plus vite possible, mais c'est vrai que toi tu avais une dynamique de faire une bonne vidéo, la meilleure vidéo possible que c'est tu pouvais faire à un moment, à ce moment là et puis passer à la vidéo d'après, mais elles étaient déjà assez quali, je trouvais.
J'essayais, c'était comme je te l'avais dit au début du podcast, je crois, j'essayais d'ajouter une différence dans mes vidéos pour que pour créer une différence de cette façon, pour proposer quelque chose d'unique de cette façon. Typiquement, la vidéo qui m'a beaucoup aidé, c'est ma quatrième vidéo, c'était comment commencer le street workout. Non seulement j'étais au bon endroit au bon moment avec un sujet qui n'avait pas été déjà traité 14 fois, mais en plus, aujourd'hui, cette vidéo, elle a des centaines de milliers de vues parce qu'elle est toujours d'actualité, faut croire, parce que j'avais été, non seulement, je faisais déjà du street depuis un moment, donc je savais de quoi je parlais, donc j'ai fait ma vidéo comme je l'espérais. Et ensuite, et ça c'est un processus que j'ai répété énormément après, c'est d'abord j'écris la meilleure vidéo du monde pour moi. Et ensuite, je vais regarder tout ce que les autres ils ont fait en français et en anglais pour faire en sorte que ma vidéo, qu'une fois que tu as regardé ma vidéo, tu n'as plus besoin de regarder la leur. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et cette vidéo-là m'a propulsé assez rapidement parce qu'elle a très bien marché. Okay. Effectivement.
Donc tu penses que tu as mis combien de youtubeurs au chômage avec cette... parce que tu...
Bah, en fait...
Tu veux que quand on arrive sur ta vidéo, déjà on apprenne à peu près tout ce que tu peux apprendre sur le YouTube sur le même sujet. Tu veux faire un peu une mise à jour des vidéos que tu as vues avant et tu veux qu'elles apportent un truc en plus à chaque fois.
Ouais.
Bah, c'est ambitieux et c'est pour ça je pense que ça a marché aussi. Et ça a marché.
En fait, c'était différent, je pense.
Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, donc je t'avais dit quand je t'ai découvert, tu avais déjà bien progressé sur YouTube. Et
j'ai sorti à 50 000 la vidéo de la finance à YouTube, c'était la vidéo spéciale 50 000.
Ok, je vois. Donc j'arrive un petit peu à me situer par rapport à moi, mon évolution. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé après les 50 000 ? Il y a eu une... Donc tu as continué de progresser, mais il s'est passé quelque chose aussi vers le mois de mars 2020.
Mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 déjà oui, tiens, ça me revient. Confiné chez moi.
J'en ai parlé avec Bazinga il y a deux semaines. Il m'a dit qu'il avait pris conscience que récemment que à quel point ça avait ta chaîne avait pris une croissance incroyable à ce moment-là parce que
la sienne aussi d'ailleurs,
la celle de Bazinga avec son challenge pompe et ses exos, en fait toutes les personnes qui incitaient à faire du sport à la maison, il y a eu Sissi Mua aussi,
tout le monde,
et donc moi la question donc c'est évidemment j'imagine que ta chaîne a connu une croissance à ce moment-là, mais ce qui m'intéresse moi c'est comment est-ce qu'on vit après le retour aux statistiques normales pour les personnes qui créent des contenus et qui ont comme nous tendance à regarder un petit peu les statistiques et qui prennent un petit peu personnellement parfois la baisse des statistiques. Comment est-ce que tu t'es senti l'été d'après, donc l'été d'après confinement, où tu as recommencé à avoir des statistiques normales, voire moins qu'avant, parce que les personnes avaient envie de voir autre chose en fait.
Ouais. C'était pas hyper évident, je reconnais, que notamment quand... pour replacer le contexte, le Covid tombe, ma chaîne explose. Je passe de...
Est-ce que tu te souviens
j'ai commencé le Covid à 160 000 abonnés et au mois d'avril, j'ai fait 100 000 abonnés au mois d'avril 2020.
Donc 260 000.
Donc voilà, en un mois, je fais plus 66%. Plus 100 000 en un mois, ouais. Et ensuite, ça s'est calmé entre guillemets, 20 000, puis c'est retombé après. Mais avril, vraiment, ça a explosé. Toutes mes vidéos ont percé. En fait, je mettais une vidéo YouTube, il s'était déjà dit « Ok, celle-là, on la met devant tout le monde. Super !» J'ai vraiment eu le rush. Pour moi, c'est le rush de ma carrière. Plus jamais je ne vivrai ça, tu vois.
Ouais, dis-moi, parle-moi-en un petit peu, c'est intéressant.
C'était vraiment... moi, en plus, je m'en souviens, j'y pensais même ce matin, parce qu'aujourd'hui, le jour où on filme ce podcast, plus de masques en Suisse, plus de restrictions, le Covid est soi-disant fini, on va apprendre à vivre avec. Et du coup, j'ai reflété ce matin en mode... que la période du premier confinement a été une période que j'ai adorée. Vraiment, parce que tout allait bien dans ma vie. J'étais coincé chez moi. J'avais plus besoin, entre guillemets, de sortir, de faire d'autres choses. Donc, je pouvais travailler H24 et c'est ce que j'aimais faire. J'étais avec ma copine à l'époque, ça se passait très bien. Et du coup, toute la journée, je me levais, je faisais des vidéos et mes vidéos marchaient de ouf. Donc, que demander de plus ? Donc, j'ai adoré cette période. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là, je me suis dit, ça marche bien. Il faut capitaliser. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, une vidéo par semaine, tu fais plus que ça. C'est maintenant qu'il faut prendre son billet, tu vois. Je me suis dit, bordel, il y en aura sur peut-être un mec. Le coup de la pandémie, j'y aurais pas cru, tu vois. La pandémie qui me
mais fait oui, part. Mais, les gens, c'est pas facile forcément à comprendre pour ceux qui sont pas youtubeurs ou streamers parce que c'était les grands. Mais en fait, parce que le discours peut paraître décalé par rapport aux étudiants, par exemple.
Oui, exactement.
Mais est-ce qu'il faut comprendre quand on se met à notre position, c'est que ça peut être le rêve, l'occasion d'une vie, en fait, pour des personnes comme nous, qui sommes sur les réseaux, une occasion comme ça, où toutes les personnes sont chez elles, et donc forcément sont peut-être plus intéressées à découvrir des nouvelles personnes sur YouTube. Donc pour nous, ça peut être l'occasion d'une vie, et donc oui, on l'a vécu parfois différemment. Moi, j'avais les deux réalités, étudiant et YouTuber, mais quand on est YouTuber à plein temps, comme tu l'étais, effectivement, faut se rendre compte quand même que c'est pas tous les jours, c'est pas tous les mois, c'est pas tous les ans, quoi.
Moi, le Covid m'a vraiment, vraiment, j'ai pas du tout aimé être enfermé chez moi, mettre le masque tout le temps. Moi,
tu parlais en tant que YouTuber.
En tant qu'être humain, j'ai détesté le Covid, tu vois. Vraiment, c'était très pénible. Pas autant que pour d'autres, c'est clair. Et d'un point de vue professionnel, force est de constater, j'ai constaté tout de suite, ok, Eric, tu as eu un énorme coup de chance. Parce que personne n'aurait pu le prédire, non seulement, comme tu l'as dit, YouTubeur, Netflix, Amazon, Carrefour, ils ont tous pris parce qu'ils étaient dans les nécessités et dans ce qu'il fallait en temps de crise. Mais en plus, moi, je faisais déjà du sport à la maison avant que ça devienne cool de faire du sport à la maison. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et là, ça a explosé. Mais assez rapidement, je me suis mis dans l'idée que c'était exceptionnel, que jamais j'allais pouvoir tenir ça. Même à un moment donné, après le mois d'avril, j'ai regardé, je me suis dit, ok, 100 000 abonnés en un mois, c'est extraordinaire.
C'est incroyable.
Quel est le niveau d'abonnés quelle personne aujourd'hui, quelle chaîne aujourd'hui fait 100 000 abonnés en un mois? Et c'est normal. J'avais été regarder ça et j'ai vu que peut-être Squeezie, tu vois, vite fait, pour lui, c'était un mois normal de faire 100K en plus. Et je me suis dit, d'accord. Donc, il ne faut pas que je prenne ça pour la norme parce que ça n'a pas l'air normal, tu vois. Je faisais une vidéo, je faisais 6 fois mon nombre d'abonnés en vue, tu vois. Non, ce n'est pas normal. Donc, ça s'est calmé ensuite. Mais le Covid est resté un petit moment. Et c'est vrai que quand le Covid a commencé à disparaître, peut-être plutôt autour de l'été 2021, il y a eu moins de restrictions et tout ça. Là, il y a tout qui est tombé d'un coup, que ça soit les vues de la chaîne, que ce soit les ventes de ma boutique d'équipement, etc. Tout ça, c'est un petit peu cassé la gueule. Et là, il y a eu un tout petit moment de... Ah oui, en fait, je réalise en fait que je m'étais habitué à quelque chose d'anormalement élevé. Et heureusement, j'en ai parlé avec mon associé aussi, on en a parlé et on s'est réalisé, ah oui, d'accord. En fait, on vivait dans notre petite bulle. On avait oublié qu'on était encore privilégié par tout ça parce que c'était vague. Évidemment, après le gros buzz, c'est retombé, mais c'est retombé à un niveau plus élevé. Et on avait oublié que le niveau était quand même artificiellement élevé à cause de ça. Et quand c'est retombé à un niveau plus normal, je me suis rapidement rendu compte de ça. On a dû se dire, ok, il va falloir revoir nos prévisions qui étaient un peu ambitieuses apparemment et reprendre à partir du niveau normal. Mais je ne l'ai pas particulièrement mal vécu. On ne va pas se mentir, je vais être complètement honnête, parce que ce déclenchement de confinement et tout ça, ça m'a permis de me sentir en sécurité à tous les niveaux, notamment financièrement. Une fois que tout est retombé, je me suis dit, ok, bon, ben, c'est pas comme si ça me mettait en danger ma vie ou mon style de vie, parce que ça s'était bien passé à ce moment-là, j'avais pas pour autant augmenté mon niveau de vie ou quoi. Et quand c'est retombé, j'étais là, ok, ben, c'est toujours bien mieux qu'avant, donc parfait, ça me va. Et j'ai mis tout ça en perspective, en mode, moi, ça fait depuis 4 ans, allez, on va dire 3 ans que j'ai l'impression que je peux me plaindre pour rien du tout. J'ai vraiment l'impression d'être le mec qui a le moins le droit de se plaindre sur cette planète, tu vois. Donc jamais je me permettrais de me dire hey, ça va moins bien en ce moment les vues, putain.
Mais en même temps, t'hésites pas à parler de sujets qui concernent en particulier les youtubeurs. Et t'as parlé par exemple de la solitude en 2021 que t'avais ressenti et qui a fait quand même plus de 150 000 vues, il me semble. Donc, il y en a qui regardent évidemment parce que tu as une belle voix et parce que tu les aides à dormir, comme on nous le dit souvent en message. On a une belle voix pour endormir, apparemment.
Je sais pas si c'est un compliment ou pas.
Ouais, on est toujours un peu perplexe. Mais donc, oui, j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui se sont reconnues. Et ça s'est vu dans les commentaires de cette vidéo. Ouais. Et du coup, tu parlais, donc j'invite les personnes à aller voir cette vidéo pour pas te citer et pour vraiment que ce soit tes mots à toi. Mais du coup, plutôt pour parler de l'après, qu'est-ce que tu comptes faire en 2022 pour te sentir un petit peu moins seul dans la solitude qui est causée par l'activité de YouTube, en fait, donc que connaissent beaucoup de YouTubeurs?
Ouais. Pour résumer ça en 10 secondes, c'est vrai que je me suis senti seul en 2021 aussi parce que, comme j'explique dans la vidéo, j'ai rompu avec ma copine au début, à la fin de l'année 2020. Et donc, pour la première fois de ma vie, en 2021, j'étais tout seul, chez moi, avec personne d'autre, à travailler tout seul chez moi avec personne d'autre. Et donc, j'ai été très, très seul physiquement. Et ça ne me dérange pas d'être seul physiquement. J'adore être tout seul, honnêtement. Mais là, entre...
Tu veux que je...
Non, tu peux rester, j'aime bien. Avec parcimonie, j'aime bien avoir... mais je ne suis pas la créature la plus sociale ou sociable du monde. J'aime, je préfère être seul. Si je devais choisir entre être tout le temps seul et tout le temps entouré...
Heureusement qu'on n'a pas à choisir.
Ouais, parce les deux ne me vont pas.
On est d'accord.
Mais je suis plus du côté... j'ai besoin
d'un petit 70-30.
Voilà, un petit 70-30, ça me va assez bien dans l'idée.
Ouais,
et ça va bien avec mon métier. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai choisi aussi à ce niveau-là. Mais le temps que je passais avec ma copine, je l'ai remplacé par du travail. Et ça, ce n'était pas une bonne idée. Parce que c'est devenu... déjà que c'était disproportionné avant, je travaillais quasiment tout le temps. Là, c'était littéralement, je travaillais tout le temps. Et en plus, ça s'est passé pendant encore le Covid, pendant l'hiver. Donc, ce n'est pas comme si je pouvais inviter des gens, des filles à aller boire des verres. Non, il fallait qu'elles viennent chez moi, que j'aille chez elles ou qu'on aille se promener dehors par moins d'eux. Donc, j'ai fait ça un petit peu, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et à la fin de cette année-là, aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un petit peu parti en freestyle cette année. Mon humeur, ma satisfaction générale moyenne était très bonne, mais avec des grosses fluctuations. Des fois, j'étais très content. Des fois, je me suis dit, putain, Eric, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Pourquoi tu t'infliges ça? Tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Et m'infliger ça, ça veut dire être aussi exigeant avec le travail qui doit être fait, les vidéos qui doivent sortir en temps et en heure, quand tu les as annoncées régulièrement, toujours aussi régulièrement. Et au bout d'un moment, à la fin de cette année, quand j'ai fait tout ça, je me suis encore retourné là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu t'es infligé ça? Pourquoi tu t'es infligé ça? Et donc, je refuse de continuer à m'infliger ça parce qu'il n'y a aucune raison valable. Et j'en suis revenu au tout début de ma chaîne où pour moi, si je m'étais infligé cette exigence envers moi-même, c'est que c'était, il y avait une question de vie ou de mort avec mon activité. C'est soit tu taffes beaucoup et ça marche, soit tu taffes pas assez, tu le regrettes et ça marche pas. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur de la mort de mon activité. Et donc... je n'ai plus à être aussi sous pression, à me mettre autant sous pression. Et c'est ça que je veux réguler mieux à partir de cette année. Moins de stress, parce que ça n'en vaut pas la peine.
Tu penses que dans 10 ans, sinon tu vas regretter de t'être mis trop la pression actuellement?
Ouais, j'en suis sûr.
Mais je suis comme toi sur le fait d'être toujours dans cet état de survie. Parce que, donc on parlait de l'inconnu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'état de survie, ça définit bien aussi l'état dans lequel on est lorsqu'on se dit, bon, je ne vais pas utiliser le diplôme que j'ai pour me lancer dans une activité, parce qu'on se retrouve dans une... Parce que tu vois, quand tu as un bac plus 5, donc l'équivalent de 5 ans d'études, tu fais plus partie de la piscine avec tous les gars et toutes les personnes de ton âge qui veulent trouver du travail, tu vois. Parce que tu te dis, potentiellement, je peux accéder à d'autres métiers que tout le monde ne peut pas avoir parce que tout le monde n'a pas un bac plus 5. Et quand tu te dis, je vais aller sur YouTube, par exemple, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de personne à l'entrée, donc tu te dis je me retrouve en compétition avec plein de personnes et ça te met dans un état de survie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être encore mieux que l'inconnu. C'est cet état de survie dans lequel je me suis retrouvé lorsque j'ai commencé. Et du coup, ça me parle ce que tu dis.
Mais c'est donc, très primaire, primal et instinctif.
Et il disparaît pas en fait. Encore aujourd'hui, même si je suis un petit peu plus établi dans ma situation, beaucoup plus établi, j'ai toujours cet état de survie et j'ai l'impression, c'est aussi pour ça que les statistiques parfois m'affectent. Parce que je me dis que ça me remet dans cet état de survie où je me dis je peux encore tout perdre. Je suis pas intouchable. Mais je pense qu'aucun youtubeur se considère intouchable. On a toujours peur du conflit. On a toujours peur de le mot que je cherche c'est se faire cancel, tu vois.
Ouais.
Enfin tout ce qui touche à la réputation, tout ce qui touche à la baisse, même pire, la mort lente et douloureuse, tu vois, la baisse des statistiques.
Le déclin inévitable.
Ça c'est encore pire que le reste, je pense.
C'est un truc, tu vois, moi, ça m'a pris 4 ans gentiment là-dedans avant de me dire, ok, je vais commencer à essayer de trouver un truc stable sur le long terme plutôt que d'être dans la pression et l'exigence et la vie ou la mort. Parce que la survie, c'est un peu ça, c'est soit je vis, soit je meurs. Donc c'est à ce moment-là que tu décuples tes ressources, comme quand tu es confronté à la mort, on dira.
L'adrénaline, oui.
À l'adrénaline, exactement. Et c'est pas évident de... Aujourd'hui, je me sens en sécurité, tu vois. Littéralement, je n'ai plus peur de la mort du tout de mon activité. C'est pour ça que quand je fais un 10 sur 10, c'est-à-dire ma vidéo, elle bite de ouf.
Oui, donc 10 sur 10, c'est lorsque YouTube...
C'est pas que je m'en fous, mais... Ouais.
YouTube, quand on est YouTuber, YouTube note nos vidéos sur 10. On est toujours à l'école, en fait. Hein. Tu vois, on arrête les études, mais on est toujours noté par YouTube.
On habite chez eux. Hein.
Sauf que sur YouTube, un 1 sur 10, c'est top. parce que ça veut dire que c'est la meilleure vidéo que tu as niveau statistique sur les 10 dernières. Mmh. Donc quand on fait un 10 sur 10, pour le coup, ça veut dire que c'est la pire vidéo qu'on ait faite sur les 10 niveau statistique. Hein. Exact. Évidemment. Parce que comme je te le disais en off, parfois mes vidéos préférées, c'est des 10 sur 10.
Bah, c'est souvent, c'est là que tu vois que c'est bien là la dichotomie parfois entre faire des vidéos qui vont marcher et faire des vidéos qui te plaisent.
Ouais.
Si tu veux, enfin bref, c'est pas tout, les deux ne s'alignent pas toujours. Donc,
c'est ça.
C'est pour ça que moi j'ai plus décidé de faire surtout des vidéos qui me plaisent que des vidéos qui me plaisent et maintenant de les sortir quand elles sortent et pas parce qu'il faut qu'elles sortent à une date précise. Parce que je suis détaché un petit peu du fait de bah, si ça fait des mauvaises perfs. Si ça, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Si je fais des 10 sur 10 pendant 15 vidéos de suite, j'aurais peut-être pas le même discours, tu vois, on va pas se mentir. Je suis assez content que mes vidéos soient pas toujours fou, des gros bides, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que je valorise énormément le fait d'apprécier la vidéo bien plus que le fait de ça va marcher. Parce que sinon, je ferais beaucoup moins de vidéos de dev perso et plus des vidéos extrêmes, scandales, divertissement, en pensant uniquement au titre et à la miniature et en construisant un truc divertissant autour de ça parce que je sais que ça va marcher. J'adopte aussi cette mentalité pour mes vidéos, bien sûr. C'est d'abord la vidéo me plaît et ensuite je me dis, et de plus en plus maintenant, qu'est-ce que je peux trouver comme titre et miniature et accroche de façon à ce que la vidéo me plaise, ça c'est déjà établi, mais qu'elle fonctionne aussi.
J'ai bien compris que c'était ça. Si on suit tes vidéos, on arrive à comprendre un petit peu tes bonnes résolutions pour 2022, on va dire, et c'est absolument pas des bonnes résolutions communes. C'est vraiment ciblé créateur de contenu, quelqu'un qui crée sur les réseaux. Parce qu'on retrouve donc l'aspect je publie pas à un horaire précis, à une date précise, je publie quand la vidéo elle est prête et je me mets moins la pression là-dessus. Je publie ce qui me plaît. Et ça, je trouve que c'est un peu l'objectif d'un youtubeur accompli. Tu sais, justement, lorsque tu arrives dans une position où tu es capable de plus avoir besoin de dire tous les lundis je serai là, tu t'imposes moins de choses. Mm-hmm. C'est ça en 2022 ?
C'est exactement ça. Bah, en fait, j'ai fait un podcast il y a quelques semaines sur mon podcast où je donnais mes objectifs pour 2022. Et je donnais au début de cet épisode un de mes objectifs les plus grands depuis que j'ai commencé ces deux, qui s'est formé de plus en plus ces deux dernières années, c'est de faire ce que je veux, tout simplement. C'est-à-dire de faire ce que je veux. Je m'en fous complètement des répercussions, notamment financières, de ce que je fais. J'ai envie de pouvoir tout plaquer, partir dans une cave, essayer de composer de la musique pendant 2 ans parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et je me dis, ok, je me laisse 2 ans tout seul dans une cave à composer quelque chose et essayer que ça marche sans avoir à me préoccuper de comment je vais payer les factures, comment je vais manger, qu'est-ce qui va se passer. Donc ça rejoint exactement cette vision de être totalement libéré du résultat, simplement s'enrichir soi-même du processus et être simplement fier de sa création parce qu'on est dans un milieu où on crée des trucs. Alors oui, on n'est pas en train de sculpter des machins, mais moi, quand je sors une vidéo, j'ai quand même l'impression de l'avoir fait un petit peu moi-même et j'ai envie d'être fier de ça et de pouvoir en être fier aussi indépendamment de combien YouTube va la scorer ou de ce que les gens vont en penser. Après, les gens qui regardent tes vidéos, c'est des gens qui aiment les vidéos que tu aimes aussi normalement, donc il y a peu de chances que je trouve une vidéo géniale et que tout le monde me dise qu'elle est éclatée au sol. Ça n'est encore jamais arrivé à nouveau, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est, ça me semble peu probable.
Bah c'est le but d'une vie, hein, d'un indépendant, c'est de pouvoir faire des choses de manière indépendante, de pouvoir être libre dans ce qu'il fait, de ne pas remettre en question chaque chose qu'il est en train de faire. Donc je t'avoue que ce serait peut-être un objectif pour moi dans quelques années. Je te dirai quand je serai arrivé à ton level, Eric.
Tu vas pas tarder, mec, tu auras dépassé mon level avant mon âge actuel. Sans souci. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Mais oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Je prends un petit peu de ton expérience aussi, parce que c'est vrai que tu es plus avancé que moi quand même dans le processus. Mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais bien être un petit peu comme ça, me poser moins de questions sur ce que je crée comme contenu. Et parce que voilà, moi, je dis toujours cet état un petit peu de survie. Ça fait que 2 ans que je suis sur YouTube. Mmh. Et donc, et voilà, j'ai pas encore la possibilité d'être aussi relax que ça, je trouve.
Ouais, mais je te dis ce que je pense vraiment, et c'est aussi pour ça que t'es chez moi sur mon canapé aujourd'hui. C'est que moi, quand j'ai vu ce que tu faisais, qu'on a parlé un petit peu, qu'on a discuté un peu, moi, tu vois, et c'est ce que je me disais l'autre jour quand j'y pensais, si aujourd'hui on me dit, mec, t'as 1000 balles, il faut les investir sur des mecs, tu penses qu'ils vont réussir, moi, je vais mettre une partie de mes thunes sur Grégoire Dossier, tu vois, littéralement. Parce que quand je te vois, je sens qu'il y a la passion, la faim et tout ce qu'il faut pour que ça marche. La preuve, ça marche déjà. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour toi.
Mais c'est assez, C'est assez étrange parce qu'en effet, moi, si j'ai 1000 euros à miser, j'en mise 10 000 sur moi, tu vois. Mm-hmm. J'ai cette.
T'as bien raison.
Mais en même temps, j'arrive à. Il y a des pensées qui arrivent parfois où. Grégoire, tu peux perdre ta chaîne YouTube. Oh, Grégoire, peut-être que les gens, ils aiment moins
si
ce que tu
fais.
Si tu n'avais
pas ces pensées, tu ne serais pas où t'en es aujourd'hui, oui. Je pense, tu vois. Et tu n'aurais pas aussi faim.
Alors, je sais que tu aimes bien l'homme pâle. Tu l'avais.
Ouais, j'aime beaucoup. Ouais.
Mais dans ma région, il y a Orelsan aussi.
Ouais.
Et Orelsan avait dit douter, c'est le contraire de s'en foutre. Orelsan avait dit. Mmh. Et je pense que si YouTube me fait douter, c'est parce que justement, je m'en.
Exactement.
J'aime YouTube et j'aime ce que je fais. Et donc, je considère que le doute, ça fait partie aussi du. Douter, ça montre à quel point tu t'intéresses à ce que tu fais et à quel point ça te plaît. Et donc, j'accueille les doutes que j'ai pour YouTube. Mmh.
Parce Exactement, oui, c'est vrai.
Bah, il résume bien. Je cite souvent Orelsan dans mes podcasts parce que j'avais dit avec Antoine BM, j'avais dit l'école est un filtre qui rend tout très chiant parce qu'on parlait de l'éducation.
C'est vrai,
et
entendu, celle-là.
Donc, tu vois, j'aime bien citer Orelsan, mais c'est ça. Douter, c'est le contraire de s'en foutre. Donc, j'accueille un petit peu les doutes et je suis content d'en avoir, tu vois.
T'as raison. C'est aussi un truc que je réalise parfois, les quelques fois où je sentais que je commençais à drifter plus dans quelque chose d'un peu trop confortable, on dira, c'est qu'en fait, les doutes et tout ça, ils disparaissent un petit peu aussi. En fait, quand tu vas dans le confort, confort égale un petit peu stagnation, égale le début du déclin peut-être aussi. Et c'est vrai que c'est comme ça que tu apprends à apprécier les doutes et à savoir... Là, tu vois, c'est un peu comme on dit, quand tu as peur de quelque chose, c'est un bon indicateur que tu devrais le faire, entre guillemets. Quand tu as peur de lancer quelque chose, si tu as peur, c'est que tu devrais. Les peurs sont irrationnelles souvent, et etc.
C'est une belle citation. Hein. Moi, c'est ce que je me disais quand je commençais YouTube. Mm-hmm. C'était la chose qui me faisait le plus peur au monde, mm-hmm. tu vois. Et c'est devenu la chose qui me rend le plus heureux au monde aussi. Donc,
comme quoi,
bizarre, hein
maintenir
bizarre.
Un certain niveau de peur ou de doute, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'autant plus en fonction de tes ambitions, évidemment, chacun, tout le monde a des ambitions différentes. Si ton but, c'est de pouvoir justement ne plus jamais rien avoir à faire et faire ce que tu veux, il va quand même réussir à y arriver. Pour y arriver, en fait, j'ai l'impression que tu es quand même obligé de passer par un stade qui te donnera peu envie d'arrêter après, j'entends. Pour arriver au stade où tu peux te permettre de ne plus rien faire, faut quand même avoir été sacrément hardcore dans ce que tu as fait. Et pour du jour au lendemain, tu te dis « Oh, en fait, je suis plus du tout hardcore là-dedans, ça m'intéresse pas tant que ça », ça me semble peu probable.
Et ça peut créer des séquelles aussi. Hein.
Ouais.
Dans la vie personnelle, surtout.
C'est pour ça que la retraite à 35 ans ne me donne pas du tout envie.
Elle fait de moins en moins envie.
Elle ne me donne pas du tout envie.
Ok. Et puisqu'on parle du doute et de la peur, il y a une question que j'aime bien poser aussi aux invités du podcast. C'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur?
La dernière chose que j'ai faite qui m'a fait peur. Putain, j'en fais pas assez, faut croire.
Ça, c'est un petit peu ce qui arrive lorsque je pose la question à des personnes comme moi qui ont une routine. Mm-hmm. C'est qu'on n'est pas amené forcément tous les jours à faire des choses qui nous font peur.
Non, effectivement.
Ou alors, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te...
Ouais, ces derniers temps, j'ai pris sur moi pour contacter des... En fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans ma petite bulle de créateur de contenu. Moi, je suis assez casanier, solitaire. J'aime bien rester chez moi tout seul. Donc, c'était pas du tout naturel pour moi que de dire à quelqu'un « Hey, tu veux pas qu'on fasse une vidéo ensemble ? Hey, podcast, tout ça, on va discuter alors qu'on se connaît pas vraiment, ça te chauffe ?» Tu vois ? Moi, je suis pas du tout comme ça. La plupart du temps, c'était quand même les autres qui venaient vers moi parce que dans ma vie, c'est beaucoup comme ça. C'est moi qui avais plutôt peur d'aller vers les autres de par mon adolescence aussi où j'étais très peu confiant et j'avais pas du tout envie qu'on me voie en fait. Donc, j'avais pas envie qu'on me voie et j'avais pas envie, ouais. Je préférais me cacher tout seul. Et ces dernières années, et même ces dernières semaines, j'ai pris plus sur moi aussi pour proactivement demander à quelqu'un, en fait, j'aime vraiment ce que tu fais, tu vois, pour de vrai, est-ce qu'on pourrait pas, y a pas moyen de moyenner quelque chose et de faire du contenu tous les deux ? En plus, plus je rencontre de gens, moins ça me fait peur de rencontrer des nouvelles personnes, et plus je réalise à quel point c'est merveilleux de rencontrer des personnes qui sont passionnées par la même chose que toi. C'est génial et j'en ai pas dans mon salon ou dans mon jardin des gens qui sont passionnés par la même chose. C'est con, sinon je parlerais avec, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec ce milieu sur Internet aussi, on est assez dispersé et j'ai eu la chance d'avoir Elio notamment et Mathias qui est aussi devenu rapidement un ami et qui fait la même chose. Mais ouais, même il y a pas si longtemps, j'ai contacté des gens sur Insta en mode on se connaît pas vraiment, mais est-ce que tu veux pas qu'on fasse un podcast ? Et ça pour moi, ça a vraiment été hors limite, en fait. Hors limite, pas parce que c'est mal poli ou quoi, mais parce que ça me faisait peur, en fait. Contacter quelqu'un et me dire Ben, en fait, je vais devoir faire une discussion avec quelqu'un que je connais pas. On se connaît pas si bien que ça, mais ça pourrait faire un bon contenu. Et c'est vrai que les gens demandent aussi, bah oui, les podcasts avec des youtubeurs et tout, c'est cool, mais pourquoi pas interviewer d'autres personnes? Et moi, je suis là, mais putain, je connais personne d'autre, en fait. Tous mes potes sont youtubeurs, comment je fais pour aborder quelqu'un que je connais pas? Ouais.
Je comprends la peur, parce que moi c'est pareil, je n'osais pas demander aux youtubeurs, parce que je partais du principe qu'ils ne me connaissaient jamais en fait. Mmh. Et tu as peut-être déclenché un truc quand tu m'as contacté il y a quelques mois, je me suis dit, ah bah si,
ouais,
si Eric me connaît, peut-être qu'en fait il y en a d'autres qui me connaissent. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je propose, bah, ça se passe bien, et je comprends cette envie de contacter des personnes qui font la même chose que nous. C'est trop bien, moi c'est ce que je suis en ce moment, c'est incroyable en ce moment la vie que je mène avec le fait de rencontrer des personnes qui font la même chose que moi, on a des discussions, c'est trop bien.
Ouais, tu me vends trop du rêve avec ouais, ton style. Mais en vrai,
life.
Ouais, ça m'inspire vraiment, parce que je me dis, putain, ça doit être, je me mets un peu à ta place, parce que j'arrive à me projeter dans ce que tu fais un petit peu, vu qu'on fait des choses similaires, et je me dis, putain, si moi je faisais ce qu'il fait, je kifferais trop ma vie en fait. C'est trop bien de voyager et de rencontrer des gens, et tu m'as donné envie aussi de plus proactivement aller demander à des gens, parce que ah oui, évidemment, plus t'es soi-disant connu, plus c'est facile d'avoir un oui. Mais même quand c'est pas le cas, ou même quand, enfin, les gens sont ouverts. En plus, quand tu leur proposes de faire un podcast où on va parler d'eux, les gens sont contents, sont flattés généralement. Ouais.
Oui,
beau gosse, Grégoire, beau gosse.
Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Je te conseille de le faire, parce que faire des rencontres dans ce milieu-là, c'est trop bien. Et c'est la peur du rejet, en fait.
Et ça me fait peur, en fait. Tu vois,
mais oui, c'est la
ça
peur
me fait
du
peur
rejet.
De quitter mon petit QG suisse, tu vois, aussi. Parce que moi, je suis bien chez moi. Je suis bien tout seul chez moi. Donc sortir, faire du Airbnb life, rencontrer des gens et toute la journée sur la route, ne pas avoir l'impression que je vais me retrouver dans la jungle et de ne pas avoir de happy place où me ressourcer qui est chez moi, ça me fait un peu peur.
Oui.
C'est pour ça que j'aime pas voyager trop longtemps.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je rentre chez moi aussi le week-end. Mais je suis comme toi, je comprends ce que tu dis.
Faut que je puisse rentrer chez moi, recharger mes batteries. Parce qu'à partir du moment où je sors de chez moi et je parle avec la plupart des gens, ça me fatigue. Enfin, je sens que mon énergie vitale, elle diminue. Et si je suis constamment exposé à des trucs comme ça qui me mettent un peu dans l'inconfort social, on dira, je me dis, ouais, quand je serai tout seul ce soir dans ma chambre, ça va être bien.
Tu sais que je suis pareil, j'ai besoin de me recharger, je me recharge moi-même en fait.
Ouais.
J'adore partager mon énergie avec d'autres personnes, discuter, mais c'est vrai que quand je me recharge pour de vrai, c'est quand je suis chez moi et que je reprends ma routine. Et je comprends ce que tu dis, bah tu vois, je suis pareil. Mm-hmm. Mais en ce moment, ouais, je fais un peu de... Je me déplace beaucoup et c'est cool aussi. Mais il faut que je rentre chez moi un moment aussi dans la semaine pour revenir à ma routine, c'est ça.
Recalibrer tout ça, ouais.
Donc je te conseille de le faire. Et puis en plus, tu vas rencontrer des belles personnes. Je sais pas si tu veux dire la personne que tu vas... rencontrer dans le milieu de la musique dans quelques semaines, mais c'est une exclue là. Hein.
Je t'avoue que je ne pense pas me permettre, parce que j'aime pas trop annoncer des trucs.
Et bah oui, je comprends
avant qu'ils soient dans la boîte.
Mais en tout cas, vous allez être surpris.
Ouais, j'essaie de me faire des contacts. Ouais. J'essaie de me faire des contacts. Non, mais oui, j'ai envie de rencontrer plus de personnes.
Il y a des belles choses qui arrivent sur ton podcast dans les prochaines semaines.
J'espère. Mais j'attends de les avoir filmés avant. Moi, je balance pas mes projets.
C'est
parce
ça.
Que ça me met la pression, tu vois.
Ah bah
c'est
oui.
Le genre de pression que je ne veux plus me mettre. Annoncer une date, annoncer un projet.
J'avoue que j'ai fait l'inverse de ce que tu viens de dire là. Je t'oblige.
Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Mais c'est vrai que autant garder la surprise.
Et ben, en tout cas. Moi, je le sais, c'est le petit privilège de youtubeur d'être là aujourd'hui, mais ouais, vous allez être surpris. Et donc, j'invite les personnes qui te connaissent à écouter ton podcast, mais les personnes qui te connaissent déjà ton podcast, donc plutôt les personnes qui ne te connaîtraient pas. Mais ton podcast est bien aussi, ouais.
Parce qu'en fait, la personne, bon, je peux le dire, mine de rien, c'est Grégoire Dossier.
Bientôt
un épisode avec Grégoire sur mon podcast qui va sortir à peu près en même temps que celui-ci, bizarrement.
J'ai cru qu'il allait lâcher le morceau.
Ouais, t'as cru.
Oui. Non, mais ça arrivera. Je te souhaite que ça arrive. En tout cas, ce sera un très beau feat. Et j'ai hâte de le regarder, en tout cas. Mais en tout cas, très content de t'avoir eu sur ma chaîne aujourd'hui. On a déjà eu une conversation sur ta chaîne, sur ton podcast YouTube. Je mettrai la vidéo en description pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Trop content d'avoir pu tourner ça. Et puis...
Un grand plaisir et honneur d'avoir été invité sur le podcast de Grégoire Dossier. Un mec que j'admire.
Ah, ça fait plaisir à entendre là. J'ai pas l'habitude, moi. J'ai le podcast des étudiants où c'est toujours le même nom qui revient.
T'habituer à ton
et là,
nouveau
le podcast,
podcast
de Grégoire Dossier, ça fait plaisir à entendre.
Ça claque comme nom quand
même.
Hein.
Bah, merci d'avoir participé à cette aventure. Et ouais, ça va être mon projet pour cette année. Je veux m'investir à fond dans ce podcast, en tout cas.
Bah, moi, je regarderai tous les épisodes parce que c'est. c'est exactement le genre de contenu que j'ai envie de regarder.
Donc, bah, merci beaucoup, mec. Et puis, merci pour aussi le soutien que tu m'as donné sans t'en rendre compte en m'envoyant un DM il y a quelques mois, justement, en ayant peur peut-être de te demander ce que j'allais répondre. En fait, tu m'as donné aussi un boost de confiance en moi et je me suis dit, en effet, mon travail il commence à être apprécié de deux personnes que moi-même, je suis. Donc, c'était très cool pour moi. Donc, merci pour ça. Et puis, merci pour l'invitation aujourd'hui. C'était très cool de pouvoir discuter avec toi.
Avec plaisir, merci.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.